J'ai pris plusieurs traductions. Quelquefois, peut-être que je vous embête parce que je vous lis dans la version Darby. Parce que c'est quand même la plus exacte. Et quand vous voyez qu'il est dit que Jésus a fait un miracle, au fond, c'est pas un miracle, c'est un signe qu'il faut traduire. Parce qu'il était le créateur. Alors, il n'y avait pas de miracle au fond. Quand il a fait ce qui est appelé le premier miracle, c'est où?
À Cana.
À Cana. Mais c'était lui qui avait fait la vigne. N'est-ce pas? Alors, il pouvait... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du vin, pour qu'il y ait du raisin? Il faut du soleil et de la pluie. Alors, à Cana, il y avait l'eau, il y avait le soleil divin. Alors, il a fait ce premier signe, et le vin était meilleur. Maintenant, où vous voyez aussi que c'est le Créateur, dans l'évangile de Jean, il y a 7 miracles. Hein. Mais le geste du Créateur, ça vous surprend, il crache pour l'aveugle-né, et il fait de la boue. C'est ce qui lui manquait. Comment est-ce que nous avons été formés, nous? Par de la boue, par la poussière de la terre. Alors il lui fait la boue qu'il lui met sur les yeux. C'est le signe du Créateur. Dans tous les miracles de Jean, il y en a 7, et il est bien dit que l'évangile de Jean nous a été écrit pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie par son nom. Et vous voyez, Jésus donc, verset 20 du chapitre de l'évangile de Jean, Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles, mais il faut traduire signes. Vous pouvez mettre à côté de miracle, parce que je crois dans ce second, qu'est-ce que vous avez?
Quel verset?
Ben,
le
chapitre 2.
C'est la place, là. Hein.
Où il est dit.
La cantine, j'entends le chant au fond, avec lequel il s'est adapté pour qu'il s'approche.
Je n'ai pas encore commencé, alors je comprends que vous n'ayez pas compris. Dans Jean, au chapitre 2, que Jésus a fait là son premier miracle à Cana. Vous voyez au verset 11, Jésus fit ce commencement de ses miracles. Mais il faut lire réellement signe. Parce qu'au fond, il était le Créateur. Alors, vous n'avez plus besoin de chercher à vous expliquer le pourquoi des miracles. J'entends encore, je voulais citer le professeur Karl Barth qui disait « Un miracle ne s'explique pas, hein, d'abord. Ou on y croit, ou on le rejette. Mais un miracle, ça ne s'explique pas. C'est une intervention de Dieu. Mais chez Jésus, ce qu'il faisait, c'était des actes créateurs. Parce qu'il était le Créateur. Et c'est ce que je voudrais que vous ayez bien saisi. La première manifestation du Fils unique a été la création. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Et alors on comprend qu'il pouvait expliquer tout. C'était lui le Créateur, malgré qu'il n'était pas allé à l'école où avait reçu le pasteur là de la paroisse où j'habitais et qui avait un diplôme d'histoire naturelle. Vous ne voudriez pas quand même me dire que Jésus en savait plus que moi, qui ai étudié l'histoire. territoire naturel. Et c'était un pasteur de l'Église libre, donc soi-disant plus évangélique que l'Église nationale, mais on était déjà là. Alors, on va se mettre en prière. Ô Dieu, nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons rien comprendre, rien saisir. Mais tu nous as donné ton esprit tout d'abord pour que nous puissions croire ce que tu nous as révélé. Et nous croyons que pour nous révéler ton cœur, ta personne, tu n'as pas même envoyé un ange, mais tu as envoyé ton propre fils, celui qui, dans l'éternité passée, était dans ton sein, dans le sein du Père, et faisait tes délices. Lui qui, avant la création de toutes choses, te satisfait pleinement, était l'amour de Dieu. Oh, que nous puissions comprendre que l'amour de Dieu, c'est une personne. Et c'est cette personne que tu nous as donnée et qui a voulu venir vivre sur cette terre, s'incarner. Et nous voulons te demander que nous puissions vraiment reconnaître dans celui qui, de fils de Dieu, est devenu fils de l'homme, c'était homme, que nous puissions y reconnaître sa divinité essentielle. Ce n'est pas pour nous une question de comprendre cela. Nous sommes dépassés. Mais justement, cela nous place devant Dieu qu'on ne peut pas expliquer et qu'on adore. Alors ce matin, nous prenons cette attitude de l'adoration. Et nous te demandons que pendant que nous sommes dans cet esprit d'adoration, avec des cœurs d'enfants qui reçoivent ce que le Père leur dit, les cœurs puissent s'ouvrir, se réchauffer et connaître cette puissance intérieure qui nous régénère par ta résurrection. Nous te le demandons afin que ce soit une journée de joie dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre thème « Fiancé au Christ ». Ce n'était pas très accrocheur d'annoncer qu'un camp aurait comme thème fiancé au Christ. Parce que nous ne voulons pas accrocher des gens charnellement. Nous voulons que vous ayez été poussés à venir, pas parce que ça devait être quelque chose d'extraordinaire, mais en vous questionnant peut-être déjà qu'est-ce qu'on va entendre. Et vous le savez bien, je n'ai rien d'autre à vous dire que ce que dit la parole. L'enseignement que nous cherchons à vous donner, que nous cherchons pour nous-mêmes à comprendre pour mieux vous le transmettre, c'est l'enseignement de la parole. Et dans un temps d'angoisse, dans un temps de doute, où toute espèce de théorie ont lieu, rien ne vaut la parole. Et je vous dis tout d'abord, pour vous le montrer, chapitre 15 des Romains, où nous lisons ceci. Nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non nous plaire à nous-mêmes. On ne fait pas un camp pour se plaire à soi-même. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Car aussi, le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. On me dit souvent, mais vous parlez beaucoup de l'Ancien Testament, mais les Écritures, au temps de Jésus, qu'est-ce que c'était? Il n'y avait pas les Évangiles, il n'y avait pas les Épîtres. Les Écritures dont parlait Jésus, c'était l'Ancien Testament. Ces Écritures qu'il avait apprises non pas aux écoles du monde, mais par qui? Par une maman, en tant qu'homme, qui avait enseigné les Écritures, les histoires des patriarches. C'était Marie, et ça je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai jamais qu'on ait passé sur Marie comme si elle n'était rien, etc. Par réaction contre un catholicisme, évidemment, qui en faisait une déesse, la reine du ciel. Et on a oublié la femme qui était Marie, la mère bénie de notre Seigneur, qui n'a pas confié simplement son fils à une gardienne, mais qui a été là pour façonner cet enfant qui leur était soumis et qui allait grandir et qui lui posait toutes ces questions en tant qu'homme, parce qu'il avait renoncé à sa position divine. Il venait du temple où tout disait gloire, psaume 29, et puis il naissait dans une crèche. Bien, mes amis, si on dit que j'ai une affection particulière pour Marie, oui, je le confesse, parce que je trouve admirable, d'abord, le choix de Dieu, qui regarde du haut du ciel, le temps est venu, le moment arrive où la manifestation du Fils unique de Dieu doit se faire sur la terre, mais comme il ne peut pas se manifester dans toute sa gloire, il faudra, pour approcher les hommes, qu'ils prennent un corps d'homme. Mais où est-ce que ce corps peut être formé pour qu'il soit vraiment humain? Il faut une femme. Il doit naître de femme. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que toutes les femmes ont espéré être la mère du Messie. Depuis quand? Depuis la chute. Parce que là, en chassant l'homme et la femme du jardin d'Éden, parce que Dieu est saint et il doit les juger, il ne peut pas s'empêcher de faire une promesse de miséricorde à ce couple qui perd son logement. Et ce n'était pas n'importe quoi. Ce merveilleux jardin où il n'avait pas à accomplir un travail épuisant, un travail pénible, où il avait tous les fruits de la création comme nourriture, c'est pourquoi nous vous disions à ce moment-là, c'était le régime végétarien que Dieu a lui-même donné, relisez Genèse 1. Et vous voyez, quand nous lisons vraiment l'Écriture, on a de la consolation. Tout a été écrit, toutes ces choses ont été écrites auparavant pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Or, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je reviens à cette promesse que vous trouvez dans Genèse 3, qu'on a appelé le protévangile, c'est-à-dire la première parole d'espérance pour le couple déchu. Quand vient le moment où Dieu juge Satan, il ajoute au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence, la semence de Satan, et sa semence, la semence de la femme. Elle te brisera la tête. Qui ? Marie, la femme ? Non, c'est pas la femme qui brisera la tête. C'est la semence de la femme. Or, habituellement, qu'est-ce que vous savez ? Quand un homme naît, c'est la semence de l'homme qui a fécondé l'ovule de la femme. Mais ici, il est dit la semence de la femme. Et qui fécondera cette semence, croyez-le ou croyez-le pas, c'est le Saint-Esprit. Reprenez ce qui est dit à Marie au chapitre 1er de Luc. Quand le temps fut venu, mais il s'en est passé du temps. Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Hein? Mais je voudrais partir de ce verset. Donc, il y avait une promesse qu'un enfant naîtrait de la femme et qu'il écraserait la tête du serpent. Alors, pendant des années, les pères, les mères, les frères, les sœurs, elles espérèrent que ce bébé qui avait été annoncé, ce bébé tout à fait spécial, qui réduirait la puissance de Satan à rien, eh bien, elles ont espéré qu'elles seraient mères de cet enfant. Chaque petite fille désirait grandir même pour devenir mère. C'était un désir de devenir mère au travers des âges. Et alors, la première qui a espéré donner cet enfant, c'est qui ? C'est Ève. Ève elle-même, elle l'avait entendue cette promesse. Et alors, quand elle est devenue enceinte d'Adam, parce qu'elle n'avait pas tout compris, mais elle a pensé, eh bien, ce sera mon fils. Et qu'est-ce que ça a été ? Caïn. Mais elle a appelé Caïn acquisition. Elle dit, j'ai acquis un fils avec l'Éternel. Donc, son espérance, c'était déjà que Caïn allait être l'homme qui allait délivrer ses parents même de la chute. Elle s'était trompée. Elle a eu Abel. Et elle était tellement déçue de Caïn qu'elle a appelé son second fils Vanité. Ça n'était pas arrivé. Elle l'a appelé Vanité, Abel, Vanité. Puis, elle a dû voir ce que c'était que la mort de son fils. Vous voyez, Ève avec Adam vers le cadavre d'Abel. Puis de voir Caïn qui prétend qu'il ne sait pas où est Abel son frère. Mais c'était à peu près vrai quand même, c'était un demi-mensonge. Oui, il savait bien où il avait mis le corps d'Abel. Mais où était-il Abel ? Ça ne le savait pas. Dieu savait où il était. Il était auprès du Seigneur. Mais c'est lui qui a dit, suis-je le gardien de mon frère? Ben, celui qui allait venir serait le gardien des hommes. Mais quand, après la mort d'Abel, Ève a conçu de nouveau et qu'elle a eu Seth, de nouveau elle a pensé, mais c'est lui. Puis là encore, elle s'était trompée. Elle l'avait appelé remplaçant. Mais vous voyez toujours dans l'idée que ce fils allait naître. Puis alors, Ève a eu des filles, et chacune, je le pense, parce qu'on se racontait les choses, ont espéré être mère de cet enfant. Alors elles ont transmis la promesse. Abraham a reçu lui aussi la promesse que toutes les nations seraient bénies en sa postérité. Tout à coup, on voit maintenant de quel peuple va naître le Messie. C'est par Abraham que va sortir cette postérité. Vous voyez, il y a une précision de plus qui s'ajoute à ce que vous avez lu dans Genèse, chapitre 3. Puis c'est confirmé à Isaac, et c'est confirmé à Jacob. Et ce brave Jacob, vous savez, c'est quand même un gars sympathique, hein, malgré qu'il était si tordu. On dit sympathique parce qu'il nous ressemble. Nous sommes bien tordus, nous. Eh bien, ce Jacob, mourant, et ça c'est extraordinaire, et c'est là aussi qu'il faut une bonne traduction, Jacob mourant, il a rassemblé tous ses fils. Puis au verset 18, littéralement, Jacob s'arrête dans ses bénédictions, et puis il s'écrie, j'ai attendu ton salut. Qu'est-ce que vous avez dans votre version? J'ai espéré en ton secours. Ou j'espère en ton secours. Mais littéralement, c'est j'ai attendu ton salut. Et le mot salut, c'est Jésus. J'ai attendu en quelque sorte ton Jésus. Puisque c'est le même sens du mot. J'ai attendu ton salut. Jacob a attendu le salut de Dieu. Et il est mort dans l'adoration. Moi, ça me bouleverse toujours. Pensez que Jacob, en mourant, il adora appuyé sur son bâton. Mais il avait attendu la délivrance. Puis maintenant, prenez Moïse. Dans le Deutéronome, au chapitre 17, on est toujours à la recherche de ce fiancé, de cette connaissance de notre fiancé. Chapitre 17, verset 15. Moïse dit dans le désert, « L'Éternel, ton Dieu, il s'adresse à Israël, te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi. » Donc on sait bien que c'est d'Israël que naîtra le Messie. Du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez selon tout ce que demande, selon tout ce que tu demandes à l'Éternel ton Dieu, à Horeb. Tout ce que tu demandes à l'Éternel ton Dieu à Horeb, vous l'écouterez. Et vous savez que sur la montagne de la Transfiguration, quand Jésus est apparu, dans cette gloire avec Moïse et Élie, tout à coup, sous la nuée, on a entendu la voix du Père qui disait, c'est mon fils élu, écoutez-le, écoutez-le, vous l'écouterez. Alors vous voyez, nous revenons à la simplicité quant au Christ, nous allons écouter toutes ces paroles. Maintenant, je vous dirais que même les païens avaient une connaissance de la venue du Messie. Je reviens un peu en arrière. Dans le livre des Nombres, vous voyez qu'un prophète, hélas, qui n'était pas dépendant du Seigneur et qui a désobéi, qui s'était, pour de l'argent, laissé louer par Balak, le roi de Madian, pour maudire Israël, eh bien, qu'est-ce que nous apprenons ? Nombre 24, verset 16. Celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, je le verrai, mais pas maintenant. Donc, ça n'allait pas se passer tout de suite. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile ou un astre surgira de Jacob. On sait bien, donc c'est confirmé, que le Messie doit naître de là. Et un sceptre s'élèvera d'Israël et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils du tumulte. Et Édom sera une possession et Séir sera une possession, eux ses ennemis, et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob, qui c'est ? C'est Jésus, hein, en son temps, dominera et fera périr de la ville le résidu. Donc ça nous conduit dans la prophétie. Et alors, vous apprenez qu'un jour, des mages d'Orient ont vu cet astre en Orient. Elles ont cru que c'était en Israël, puisqu'ils connaissaient la chose, que c'était en Israël que naîtrait ce roi. Mais on ne savait pas encore où la ville n'avait pas été désignée. Alors, en son temps, Dieu suscite les prophètes, et en particulier Ésaïe, et qui nous dit alors que vraiment ce fils naîtrait de qui ? D'une vierge, d'une jeune fille qui serait encore vierge, qui n'aurait pas cohabité avec quelqu'un, quoiqu'on pouvait s'appeler déjà mari et femme quand on était fiancé, parce que les fiançailles, c'était quelque chose de sérieux qu'on faisait devant le Seigneur. Et alors, Ésaïe, au chapitre 7, vous connaissez les passages, mais je vous les cite pour vous montrer l'unité de l'Écriture. Verset 11e. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils, elle appellera son nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Puis, je passe. Et au chapitre 9, au verset 6, il est question qu'un enfant nous est né. Donc, un jour, l'enfant naîtra. Un enfant nous est né. Mais Ésaïe est toujours dans le présent prophétique, ou quelquefois dans le passé prophétique. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Le gouvernement sera sur son épaule, et on l'appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Et vous savez qu'au travers de toute l'Écriture, chaque fois que Dieu s'est manifesté par le Fils unique, on demandait son nom. Jacob dit, quand il lutte avec l'ange, quel est ton nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Et puis, Manoah, quand il est visité par l'ange, il demande aussi son nom. Et là, quelle est la réponse? Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc, c'est bien celui qui doit venir. Mais il faut aller jusqu'au temps de Michée, et c'est Michée qui nomme la ville où devrait naître le Messie. On sait qu'il doit naître d'Israël, on sait quel sera son nom, qu'il naîtrait d'une vierge, mais... Alors, vous voyez, toutes les femmes espéraient être la mère de ce Messie. Maintenant, on sait que c'est à Bethléem. Vous avez trouvé le verset ? Michée, chapitre 5, verset 1. Maintenant, attroupe-toi, fille des troupes. Il a mis le siège contre nous. Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, qu'est-ce qui avait été enterré à Ephrata? Au bord du chemin.
Rachel.
C'était Rachel, hein, la femme de Jacob. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Et bien, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, le Fils éternel dans le sein du Père. Il était dès les jours d'éternité. Mais c'était annoncé qu'il devait naître dans la ville de Bethléem. Et vous savez bien que les mages, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont troublé toute la ville en disant « Où est le roi des Juifs dont nous avons vu l'étoile en Orient ?» Alors, on a consulté les livres. Même Hérode a demandé qu'on consulte les Écritures. Et on a trouvé que c'était à Bethléem. Alors, les mages sont allés, mais avec la mission que leur confiait Hérode, moi aussi je veux aller le trouver pour l'adorer, revenez me dire où il est. Mais dans sa pensée, qu'est-ce qu'il voulait faire? Le tuer. Mais Dieu est au-dessus de tous ses plans humains. Mais alors, on peut se représenter ce qui a dû se passer, parce que, apparemment, tout était contraire. Hein? On sait que c'est à Bethléem. Alors, pendant quelque temps, je pense que tout le monde à Bethléem, toutes les femmes de Bethléem se sont dit, ben c'est moi. Nous espérons que c'est une femme de Bethléem. Maintenant, on sait que c'est ici à Bethléem qui doit naître. Non. Alors, il ne se passe rien. On a attendu, il ne se passe rien. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Tout à coup, c'est le jugement. Les Juifs doivent partir où? En captivité. Plus de Juifs à Bethléem, plus de Juifs en Israël. On les emmène à captivité, en captivité où? À Babylone. Pour quelle raison? Parce que Israël, qui était déjà divisé, donc a été emmené en premier. On a prêché en Juda pour qu'ils se repentent. Ils ne se sont pas repentis. Alors Jérémie a prêché que le jugement allait fondre sur Jérusalem. Mais on disait, c'est pas possible, il y a le temple de l'Éternel à Jérusalem. Nous sommes garantis par le temple. Ne pensez jamais à cela. Hein. Ne dites pas, nous, nous avons l'assemblée, c'est ici l'assemblée. Il ne peut rien nous arriver, c'est la bonne. Attention à cela. Ne vous glorifiez pas, parce qu'il suffit de peu de temps. Mais regardons nos voies, repentons-nous de ressembler si peu au Seigneur. Alors donc, ils sont en captivité, la ville a été détruite, mais Jérémie avait annoncé que cette captivité durerait combien d'années ? 70 ans. Et il y avait des gens qui écoutaient quand même ce que disait Jérémie, ils ne pouvaient pas échapper, ils devaient aller en captivité, mais ils savaient qu'au bout de 70 ans, ce Dieu infiniment miséricordieux, mais qui doit châtier le mal, et nous avons vu qu'il leur disait que s'il devait châtier, ses yeux pleureraient nuit et jour, parce qu'il les verrait s'en aller en captivité, hommes, femmes et enfants. Et alors, vous avez au chapitre 25 de Jérémie, Jérémie était encore à Jérusalem, quand il prophétisait cela. Et voyez-vous, il y a 25 ans qu'on fait les camps ici, hein. Puis il est dit ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, pour tout le peuple de Juda, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple et devant tous les habitants de Jérusalem, disant, « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée, et je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. » L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie, de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays. Parce que Dieu ne se plaît pas à punir. Vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux. Or aujourd'hui, la chrétienté est en plein après les autres dieux. C'est incroyable. On adore tout. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Puis il dit ce qui allait arriver. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai une ruine éternelle. Et puis, il y a la promesse d'une restauration. Alors, quand tout cela a eu son accomplissement, comme toute parole doit avoir son accomplissement, Daniel, lui-même, un homme de Jérusalem, de la noblesse, a été tout jeune emmené en captivité. Et puis vous connaissez l'histoire de Daniel. Puis figurez-vous, qu'est-ce qu'il avait emporté avec lui, Daniel? Prenez le chapitre 9 de Daniel. Si vous n'aimez pas la parole après cela, ben, vraiment, il faut être bouché à l'aimerie. chapitre 9. La première année de Darius, parce que Nebuchadnezzar s'était déjà passé, c'était les Mèdes et les Perses qui lui avaient succédé, mais Daniel était là. Daniel ne passait pas. L'étranger, le prophète, celui qui restait dans la main de Dieu, qui se laissait faire par Dieu, quitte à être jeté dans la fosse aux lions. Et de voir ses amis jetés dans la fournaise ardente. Mais ils ont fait des délivrances merveilleuses. Mais pourquoi? Comment ont-ils pu rester calmes quand ils ont vu cette fournaise chauffer 7 fois plus que de coutume, et puis qu'ils avaient qu'à simplement se prosterner devant la statue? C'était si simple. Mais je garde ma foi intérieure, c'est un geste extérieur, je me prosterne, mais hein, je suis quand même croyant en Dieu, hein, mais je me prosterne, parce qu'on veut sauver sa vie. Non. Ils se laissent jeter dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui leur donne cette force? Quand tu marcheras au sein de la flamme, tu ne seras pas brûlé. Et voyez-vous, théoriquement, ils ne pouvaient pas marcher au sein de la flamme. On les a jetés, liés. Et puis ils ont vu griller à l'extérieur, hein, comme des hot dogs, et ils ont vu griller les serviteurs qui les jetaient dans la flamme. Puis une fois qu'ils sont dans la flamme, qu'est-ce qu'ils voient? On leur enlève les menottes. Qui? Le feu. Et sont libérés. Les liens brûlent. Puis ils se promènent. Ils marchent au milieu du feu. Et le feu ne les a pas brûlés. Est-ce qu'ils y croyaient? Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Ils sont emparés de cette promesse d'Ésaïe. Et puis ils ont pu glorifier le Seigneur. Et c'était la conversion de Nebuchadnezzar. Mais maintenant donc, Nebuchadnezzar n'est plus, mais Daniel est toujours là, et par sa fidélité, on le reconnaît, et on lui donne un poste très élevé. Alors, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans quoi? Dans Nostradamus. Hein? C'est là que les chrétiens vont voir. On me l'a encore demandé l'autre jour, est-ce que... Je vis dans les livres qu'il devait s'écouler quoi? 70 ans, c'est vrai ou c'est faux? C'est dans quel livre qu'il a trouvé ça? Jérémie. Pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il compte. Puis il se dit, mais on y est. Les 70 ans, c'est passé. Mais Jérusalem, les nouvelles qu'on a, c'est détruit. Alors, il croit la parole. Il tourne sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il n'a pas organisé une marche à travers la ville, là, hein, pour faire comprendre qu'on était quand même là. Non. C'est dans la prière, dans l'humiliation. Et puis, je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Vous voyez, l'Esprit nous amène toujours à une confession de péché. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion se fasse en ce jour. On n'a pas dit, mais comment est-ce que tu as pu permettre des choses pareilles? Non, ils reconnaissent que c'était leur péché qui avait attiré tous ces malheurs sur tout Israël. À ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, nos chefs, etc. Et vous pouvez vous-même lire toute cette confession. Et en finale, quand il montre que tout ce qui est écrit dans la loi, verset 13, comme cela a été écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, et nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. On avait détaché la ceinture. L'Éternel a veillé à cette sur cette calamité, elle a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Puis il continue en demandant verset 19, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, sois attentif et agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur cette ville. Je parlais encore, ça se trouve que c'est merveilleux, hein. Je priais et je confessais mon péché et le péché de mon peuple et je présentais mes supplications. Vous voyez, il dit mon péché et pourtant on l'avait examiné en tout et on n'avait rien trouvé en lui qui soit faux, hein, ses ennemis, sauf qu'il priait. On le voyait prier trois fois dans la journée. Tournait Jérusalem. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, qui était cet homme? Gabriel. Voilà que Gabriel est en action. Et c'est un ange de Dieu. Gabriel qui était déjà venu lui expliquer d'autres choses. Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Donc c'est bien l'ange. Au moment de l'offrande du soir, ce Gabriel qui allait trouver qui plus tard? Zacharie, quand le temps serait venu. Et puis ensuite, Marie. Mais vous voyez, il a d'abord visité Daniel le prophète. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et puis alors là, il reçoit un enseignement incroyable. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc vous voyez, le jour, la date, l'heure, le jour, le mois, l'année, tout cela est dit dans l'Apocalypse. Mais voilà, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision du prophète et pour oindre le Saint des Saints. Mais voilà, quand on prend comme ça littéralement la parole, 70 semaines, mais alors c'était fantastique pour certains juifs. 70 semaines, c'est facile à compter. Ça fait pas 2 ans. Dans moins de 2 ans, celui qu'on attend, le Messie, sera là dans moins de 2 ans, hein, 70 semaines. Mais il faut comprendre la parole par la parole. De quelle sorte de semaine est-il question? Alors il y en a qui ont dit, avant 2 ans, le Messie sera venu. Donc c'est proche. Et ce n'était pas des semaines de 7 jours, c'était des semaines d'années. Et ils pouvaient retrouver tout cela. Que souvent le Seigneur parle de semaines d'années. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte Alors, ces 70 semaines vont jusqu'au rétablissement de Jérusalem futur. 70 semaines, ces 70 semaines concernent le peuple juif. Comprenez-vous? Parce que l'Église n'était pas encore mentionnée. C'est le peuple juif. La prophétie, elle concerne le peuple juif. D'abord. L'histoire de l'Église, c'est, comme on l'a souvent dit, comme une parenthèse. Ça n'a rien à faire avec le judaïsme. Sinon, qu'on a reçu des juifs, oui, l'Ancien Testament, la parole, mais la prophétie concerne Israël. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'au Messie le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors, attention là. Prenez un papier, mettez 7, plus combien? 62. Alors, ça fait combien? Ça fait 69 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, c'est-à-dire à la fin des 62 semaines, quand il reste encore une semaine pour que tout soit terminé, hein, eh bien, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Donc, l'annonce est faite à Daniel que le Messie, cet enfant qui devait naître, serait retranché. Alors, il faut partir de la reconstruction de Jérusalem. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je puis vous assurer que c'est vrai. Que, après les 62 semaines, le Messie était là, et il a été, après les 69 semaines, hein, le Messie était là, et il a été retranché. Vous pouvez faire le calcul. Et, vous lisez au verset 28, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça s'est passé quand, ça? En 70 après Jésus-Christ. Comme conséquence du rejet du Messie. Le Messie est né, il a eu son activité pendant environ 33 ans, il a été crucifié, et le peuple, ayant rejeté la pierre angulaire, la pierre, la maîtresse pierre, comme il l'a dit, ou la dernière pierre qui devait être la pierre du fait de l'édifice, on l'a rejetée, elle est devenue la pierre angulaire d'un nouveau peuple, puisque les Juifs n'ont pas voulu du Seigneur, le Seigneur n'a pas pu établir son royaume, on l'a rejeté. Mais, par sa rejection, il a accompli l'œuvre de la rédemption, non seulement des Juifs, mais des païens. Mais en attendant, eh bien, c'est plus le peuple juif qui a la première place, c'est l'Église, hein, qui est devenue la pierre angulaire de l'édifice. C'est pas l'apôtre Pierre qui est la pierre. Il l'a bien compris. Il est une pierre sur la pierre. Le fondement, c'est Christ. Et puis, chaque croyant est devenu une pierre de cet édifice. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Pas plus que le peuple d'Israël, l'Église n'a été fidèle. Et nous arrivons à la fin du temps de l'Église. À la fin du temps de la grâce. La manifestation du cœur de l'homme a été révélée. Mais je ne vais pas m'allonger dans la question prophétique maintenant, mais simplement vous donner ces quelques indications. Daniel, maintenant, a une révélation, et alors que les Juifs perdaient espoir, voilà que tout à coup, les 70 semaines, les 70 ans annoncés par Jérémie se sont accomplis, et l'ordre de remonter à Jérusalem se fait par le roi Cyrus. Donc Dieu, pour accomplir ses prophéties, il emploie même un païen. Il emploie un païen. Alors, ne cherchez pas parmi les hommes chrétiens celui que le Seigneur pourrait employer. Il peut très bien employer un païen. Parce que notre christianisme est tellement fade, alors que le Seigneur travaille. Mais alors dans le ciel, il y a toute une préparation, parce que le temps est venu, où le Fils unique va s'incarner. Et voilà que Gabriel, dans le ciel, peut dire à tous les autres anges, parce qu'ils sont tous préoccupés par ça, qu'il va trouver Zacharie. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord le serviteur qui doit préparer le chemin du Seigneur. Alors, grand branle-bas dans le ciel, auprès de cette multitude des anges, l'heure est venue où le Fils unique va s'incarner. Et pour les anges, c'est quelque chose d'incroyable. C'est lui, le Fils unique, qui les a créés. Et puis, il n'en envoie pas une de ses créatures. Il dit, c'est moi-même qui vais y aller. Il n'enverra pas un ange, parce que les anges, qu'est-ce qui leur arriverait? Ils ne peuvent pas mourir. Or, il faut qu'ils prennent un corps humain. Et alors, dans le ciel, ils vont assister à cette incarnation. Et après avoir averti Zacharie, là encore, je vous demande de relire les chapitres 1er et 2e de Luc, et vous trouverez ce qui se passe. Depuis tant d'années, on attendait la venue de ce bébé, de cet enfant, et maintenant, il est question de trouver la femme, de trouver la mère. Mais est-ce que vous ne voyez pas l'importance? Le ciel regarde, comme il a regardé déjà après la nomination de Saül, et que Dieu a vu dans les champs un petit gars, un petit berger qui gardait les troupeaux, et puis alors que toute la famille n'y pensait pas, ne l'avait pas convoqué pour la venue de Samuel, le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas à ce que l'homme regarde, moi je regarde au cœur, j'ai vu chez les fils d'Isaïe, il y en a un qui manque là, mais c'est lui que j'ai choisi. Et vous connaissez l'histoire de David. Eh bien maintenant, le Seigneur a regardé, puis il a vu Marie. Quand il a regardé au temps de Noé, il a vu Noé, et qu'est-ce qui le distinguait Noé? Il n'était pas comme les autres, il marchait avec le Seigneur. Parmi ceux de son temps, il avait subi l'influence d'Enoch. Et il savait qu'Enoch avait été pris. Alors, maintenant, il est question de Marie. Alors, je trouve que c'est tellement merveilleux de nous occuper du ciel. Hein. Au ciel, on sait notre adresse. Quand Gabriel arrive à Nazareth, il n'a pas demandé, vous savez pas où habite une petite Marie? Non, il n'a pas besoin de demander des renseignements. On a dit, ça c'était un peu une rigolade, hein, quand les cosmonautes sont montés une fois, eh bien, Marie se serait présentée vers la navette, puis aurait frappé, puis elle aurait demandé, Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est Saint-Bruno? Parce qu'on avait prétendu que Marie avait fait une apparition à Saint-Bruno. Elle ne savait pas où était Saint-Bruno. Parce qu'elle n'y était pas. C'est comme quand on parle des révélations en Yougoslavie. Qu'est-ce que vous voyez en Yougoslavie? L'activité de Marie. Oh, c'est terrible ce qu'on a fait de Marie. Et ce qu'on lui a mis sur le dos. Mais regardez, retrouvez la simplicité de Marie. C'est une jeune fille qui se nourrit de la parole, qui a toute cette parole dans son cœur. La preuve, c'est son Magnificat. Elle exulte, n'est-ce pas, quand elle rencontre Élisabeth. Et voilà que le Seigneur s'approche d'elle. Verset 26, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Donc vous savez, quand on est envoyé par Dieu, hein, ben, c'est l'ange Gabriel. Dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Tout ça, c'est très connu du ciel. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Bah, » C'est en tout cas une femme dont je vais étudier l'histoire. C'est une femme bénie entre les femmes. Elle a donc quelque chose à m'apprendre. Et elle, le voyant, fut troublée par sa parole. Elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. » Oui, le fils unique sera appelé fils du Très-Haut. « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, » et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, il n'y aura pas de fin à son royaume. Mais, il y avait la prophétie de Daniel qui montrait déjà qu'il serait retranché. Et Marie dit à l'ange, comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Et comme preuve, Élisabeth, ta parente, donc qui ne pouvait plus avoir d'enfant, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, ben, elle est enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici, je suis l'esclave du Très-Haut. Voici, je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, et puis vous connaissez toute l'histoire. Elle va voir sa cousine, Élisabeth. Et c'est ainsi que va s'accomplir la parole et que Joseph lui-même... Mais Marie ne le savait pas. Joseph lui-même sera visité pour qu'il puisse croire ce que sa fiancée vient lui dire quand elle rentre de chez Élisabeth. Et Joseph doit se demander, mais est-ce qu'elle a rêvé? Et il a peur. Mais l'ange vient et le rassure et lui dit que l'enfant est conçu du Saint-Esprit. Nous voilà, ils habitent Nazareth. Et alors il y a des questions qui se posent. Il doit naître à Bethléem. Mais voilà que Dieu, qui a la haute main sur les princes et sur les rois, fait ce décret d'Auguste, que tous ceux qui sont de la ville de Bethléem doivent aller s'inscrire à Bethléem. Alors Marie est enceinte, c'est pas très drôle de faire un voyage assez long. Alors, moi je pense à Marie qui se dit, mais je dois mettre au monde le Fils de Dieu, puis c'est si compliqué pour moi, je dois faire encore un voyage. Mais elle sait, oui, que c'est à Bethléem. Elle sera certainement bien reçue, puisque elle sera la mère du Fils de Dieu. Non, il n'y a pas de place pour eux. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Alors, comment est-ce que ça se passe? Dieu m'envoie un ange, puis maintenant, tout a l'air fermé. Et puis, s'il est le Fils de Dieu, il faudra que je le mette dans une crèche. Vous rendez-vous compte ce que ça a dû être pour cette fille? Se demander, mais est-ce que je rêve? Est-ce que vraiment? Ben, c'est très bien qu'elle n'a pas couché avec un homme. Que ce qui s'est fait en elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais voilà, l'enfant est là. Alors elle voit l'enfant, il est là, oui. Son petit est là, mais elle l'a emmailloté, elle l'a couché dans la crèche, elle a tout préparé. Mais quand même, et puis tout à coup, là dans le ciel, Gabriel dit aux anges, ça y est, maintenant, on y va. Et tous les anges s'en vont. Vous savez, moi je me réjouis parce que je me dis que c'est très proche que les anges vont dire, on a la grande préparation pour l'enlèvement de l'Église. Alors on va y aller. On attend la trompette. Il y a toute une préparation angélique qui se fait comme il y a eu la préparation angélique. Parce que quand il est né, hein, c'était le grand événement pour tous les anges. Mais quand les anges devaient voir ce petit enfant qui était leur créateur, il a été fait un peu inférieur aux anges à cause de la passion, de la mort. Ces textes, je les lirai ce soir pour que nos amis qui ne sont pas là, les moniteurs, puissent s'en pénétrer. Alors il y a eu cette grande manifestation des anges à la naissance. Et puis, ensuite après, voilà que Joseph réveille Marie. Quand ils sont, les mages sont partis, ils ont reçu des présents, tout cela. Puis, qu'est-ce qui arrive? Marie, elle se réveille. Il nous faut partir. Pourquoi? On veut tuer l'enfant. Rendez-vous compte? Parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. On veut tuer l'enfant. Et ils sont peut-être déjà partis de Jérusalem pour venir tuer notre enfant. Mais où irons-nous? L'ange m'a dit en Égypte. Les Égyptiens seront d'accord de nous recevoir. Et voilà, c'est le voyage en Égypte. Hein. Mais pour Marie, c'est quand même pas drôle. Et on n'y pense pas à Marie, on ne l'a pas pris chez nous. Moi, j'ai pris chez moi. Parce qu'elle m'enseigne beaucoup. Parce qu'elle a passé par toutes sortes d'épreuves. Et puis elle pouvait toujours se demander, mais comment est-ce que Dieu permet ça? C'est son fils unique, c'est le fils unique du Père, et puis on passe par tout ça. Et voilà, les 4 ans se passent, on revient, puis on est à Nazareth, puis elle fait l'éducation de l'enfant. Parce qu'il est vraiment un enfant qui leur est soumis et qui certainement pose des questions. Qui a fait les petites fleurs? C'est lui qui les a fait, mais il a abandonné sa position de divine pour être sur la terre comme un homme. Et il a été élevé par Marie, qui a dû lui raconter toutes les histoires de l'Ancien Testament, les histoires de la chute d'Ève, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est au courant de tout cela par Marie. Et puis, voilà qu'un jour, c'est les premières vacances. On part à Jérusalem, disent les parents. Alors il part avec eux. Et puis, il est dans le temple, puis il voit les docteurs. Puis il était tellement intéressé qu'il a plus pensé à ses parents. Alors les docteurs lui ont posé des questions. Où es-tu né? Hein? Et il a dit qu'il répondait aux questions. Je suis né à Bethléem. Et où habites-tu? J'habite Nazareth. Vous savez, les enfants, ils répondent. Mais comment as-tu appris les Écritures? Tu es allé à l'école? Non, il n'y avait pas d'école. J'ai pas été à l'école. Mais alors, qui t'a appris les Écritures? C'est maman. C'est ma mère. Moi, je trouve ça admirable. Vous n'avez pas de leçon de Marie à recevoir. C'est ma mère. Alors on a interrogé pour voir si vraiment la mère avait bien instruit son fils. Mais ils étaient suffoqués par ses réponses. Et puis alors tout à coup, bien voilà, les 3 jours ont passé, tout à coup c'est sa mère qui arrive. Puis elle se précipite malgré tout au milieu de ses docteurs, puis elle prend son fils dans ses bras. Elle l'avait retrouvé. L'enfant perdu était retrouvé. Mais pourquoi nous as-tu fait cela? Puis là, je pense un peu les pharisiens là qui étaient là, les docteurs, ont pu entendre, puisqu'ils s'en allaient eux aussi, ils ont pu entendre la réponse de Jésus. Il faut que je sois aux affaires de mon père. Mais comment? Son père qui est charpentier, qu'est-ce qu'il est venu faire comme affaire ici? Non. Il dit, il faut que je sois aux affaires de mon père, mais... Son père est charpentier, quelles affaires? Mais Marie, elle avait compris, quand même. Il parlait de son père. Puis voilà, il est rentré avec eux, puis il leur était soumis. Que c'est beau! Que c'est beau! Et alors, comme homme, il est allé après, au Jourdain, il a reçu la consécration du ciel, que c'était bien lui, l'agneau de Dieu préconnu dès avant la fondation du monde, qui commençait sa vie terrestre, où il allait aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Et on continuera ce soir, si vous êtes d'accord, si ce sujet vous intéresse encore. Ou bien si vous en avez marre, mais il n'y a plus que 2 jours. Mais c'est quand même beau la parole, vous ne trouvez pas? Et le lieu de la parole. Puis alors on verra qu'il reste une semaine pour quel peuple? Le peuple d'Israël qui a rejeté le Seigneur. Mais il y a encore une semaine d'année, une semaine qui doit s'accomplir. Puis il va se passer, après 3 ans et demi, un événement. Pendant, ils vont faire une alliance avec l'Occident, c'est-à-dire l'Europe qui se reconstruit, pour être sûr que les Arabes ne vont pas les envahir. Mais ils s'apprêtent à recevoir le faux roi. Et au milieu de la semaine sera rompue. L'alliance sera rompue. Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu prépares nos cœurs et que tu nous donnes le goût de ta parole. Que nous ne soyons pas de ceux qui, comme les Israélites, quand ils ont reçu le pain du ciel, le pain des cieux, la manne, lui trouvaient vraiment le goût d'un gâteau au miel. C'était merveilleux. Mais ensuite, ils se sont habitués. Et puis, ils ont trouvé que ça avait le goût d'un gâteau à l'huile, c'était moins bon. Puis après, ils ont pu dire, notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et ce fut les serpents qui les ramenèrent dans le droit chemin. Ô Seigneur Jésus, nous voulons te demander que tu renouvelles notre goût des Écritures. Parce que nous savons que quand nous les lisons, nous sommes comme lavés, nous sommes purifiés, désintoxiqués de tout ce qu'on entend dans les journaux, à la radio, à la télévision, pour reprendre courage par les Écritures, par la consolation qu'elles nous donnent, nous avons espérance. donne-nous d'oser prêcher ces choses. Tu sais que le doute peut aussi entrer dans mon cœur, que si cela n'arrive pas, alors qu'est-ce qu'on dira de moi ? Mais Seigneur, c'est toi qui as parlé, c'est pas moi. Alors nous voulons te croire éperdument, et nous ne voulons pas donner nos interprétations, mais ta parole, et revenir à la simplicité du Christ. C'est toi qui as dit, Seigneur Jésus, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. Bien, nous voulons être ces petits-enfants, avec nos enfants dans ce camp, pour recevoir ta parole, pour ta seule gloire en Jésus. Amen.